Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Chères auditrices, chers auditeurs, voici le retour tant espéré de la grande tchatch, le rendez-vous politique du ravi sur Radio Grenouille. Au micro, pour vous servir, Michel Guéraud, le rédacteur-chef du mensuel régional Pas Pareil. Afin d'honorer le mois du Santon, il fallait vous faire un beau cadeau. Comme le Père Noël est trop occupé, nous avons donc invité un sénateur, Guy Benaroche. Un sénateur, oui, mais un sénateur écologiste. Le seul, l'unique dans toute la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et avant de tchatcher avec cette perle verte et rare, comme c'est l'usage, présentons notre invité. Remontons d'abord dans le temps, en 1974, lointaine époque où n'existait ni Google, ni Apple, ni Facebook, ni Amazon. Guy Benaroche avait 20 ans. La perspective de devenir sénateur vous aurait, à cette époque, autant effrayé que l'idée d'être un jour emmuré vivant au Panthéon. Car vous brandissiez alors, haut et fort, le drapeau vert et noir de l'écologie libertaire. Sans rechigner déjà toutefois à assumer de hautes fonctions comme celle de directeur de publication d'un journal créé à Marseille. Un journal nommé L'Or Vert, autoproclamé organe de la révolution écologique. Né à Oran, vous aviez 8 ans en 62 lors de votre rapatriement d'Algérie. Dans les fameuses années 68, vous étudiez les sciences économiques à Aix-en-Provence. Pour fêter vos 18 ans, vous créez le CLAP, le Comité de lutte anti-pollution, l'une des premières associations écolo des Bouches-du-Rhône, bataillant autour de l'étang de Berre contre la Méditerranée poubelle de l'industrie. Syndicaliste étudiant, vous soutenez la campagne de René Dumont en 74, le premier candidat écologiste à une présidentielle. Passionné de rock, vous fondez un magazine de disques, puis une société d'organisation de concerts de musique. Avant, beaucoup plus tard, de devenir ingénieur commercial dans une boîte conseillant les entreprises pour qu'elles s'adaptent, je cite, à la finitude des ressources de notre planète. Sans lâcher le militantisme associatif, en couple depuis 81, mais toujours hors les liens sacrés du mariage, attention, père de 2 enfants, votre vie familiale et professionnelle vous éloigne longtemps de l'activisme politique. Vous adhérez ainsi tardivement à un parti. Ce sera en 2010, à 56 ans, lors de la création d'Europe Écologie. Dès lors, dans une région où l'écologie politique a été jusqu'ici extrêmement discrète, vous entamez un tout aussi discret parcours dans les rouages d'un parti réputé pour ses adhérents turbulents. Malgré les vifs débats internes, vous réussissez pourtant la prouesse de rester secrétaire régional d'Europe Écologie durant 10 ans, jusqu'en octobre dernier. Votre premier mandat est tout aussi tardif, conseiller municipal à la Boyardis, où vous vivez depuis près de 30 ans. Gratifié lors des dernières municipales du titre d'adjoint, vous avez aussitôt démissionné du poste pour rejoindre le Sénat. L'ancien libertaire siège désormais au bureau exécutif national d'Europe Écologie. Tremblez, sénateur, la révolution écologique est en marche, le ver est dans le fruit et le palais du Luxembourg.
Bravo.
T'as une petite réaction à ce portrait à la sauce ravie.
Ah ben bravo, c'est extraordinaire. J'aurais pas pu faire mieux, j'aurais pas pu parler aussi bien de moi. Donc je vous remercie beaucoup. Je trouve ça parfait. Voilà, j'ai bien tout connu. Alors à part que j'étais pas effrayé quand j'étais jeune, si on m'avait dit que je serais sénateur, simplement ça m'aurait fait beaucoup rire en fait. Voilà, ça m'aurait pas effrayé.
D'accord. Bah, justement, quand même ce paradoxe-là, parce que Europe Écologie, puis avant les Verts, dans cette mouvance-là, effectivement, avec une culture un peu libertaire, en tout cas aux origines, le Sénat, bah, c'était quand même un peu une chambre d'endormi. Hein. Votre regard a bougé sur cette haute assemblée.
C'est vrai, j'ai cru ça moi aussi. Hein. J'ai cru ça longtemps et même après avoir été élu, je me suis dit quelque part, on va réveiller ça. Est-ce que c'est juste une sinécure ou est-ce que vraiment je vais être utile ou efficace? Et en fait, j'ai été très surpris de mon arrivée. Il y a deux choses essentiellement qui m'ont surpris. C'est effectivement l'intensité de l'action du Sénat, en fait, de l'action au quotidien. Et puis le cadre, vraiment le cadre de l'organisation du Sénat, qui a vraiment un cadre excessivement contraint, tout en permettant en fait énormément de choses au niveau et des actions et des possibilités d'intervenir sur des tas de sujets, on va en parler. Donc en fait, non, je dois dire que j'ai peut-être jamais autant travaillé intensivement dans ma vie, y compris dans ma carrière professionnelle, que depuis que je suis sénateur en fait.
Donc l'image du sénateur bedonnant, un homme bedonnant, fatigué, avachi, c'est un cliché?
Ben aujourd'hui c'est un cliché, après je vais vous dire, bon, il y a des groupes qui sont composés au Sénat de 160 sénateurs. Quand il y a 160 sénateurs et qu'on est bedonnant, avachi, un peu vieux et un peu paresseux, on peut effectivement ne pas faire grand-chose, je pense. Voilà. Nous, on est un groupe de 12 personnes qui voulons faire front sur tous les sujets, sur tous les débats, sur toutes les lois. Et donc à 12, On est en permanence sur le terrain, on est actif et c'est vraiment intense. C'est, donc c'est à l'inverse du cliché, c'est vrai.
C'est pas la première fois que, qu'il y a un groupe écologiste au Sénat, c'est la deuxième. Hein. Il y a eu un groupe entre 2012 et 2016, puis un trou d'air. Et il faut être plus de 10, hein, c'est ça
pour, c'est ça, il faut être 12 en fait.
Et là,
on est 12. On est 12. Ouais.
D'accord. 12, mais sur un grand nombre hein, de sénateurs, je ne me souviens plus de ce nombre-là, 348, c'est ça. C'est pas grand-chose quand même. Vous allez pouvoir vous poser.
Alors, c'est ça à la fois notre ambition et puis le rôle du Sénat, est-ce qu'il peut faire ou ne pas faire en fait. Alors 12, ça paraît pas beaucoup, c'est vrai. Donc quand il s'agit de voter au moment du vote d'une loi ou d'un amendement sur une loi, c'est vrai qu'on pèse que 12 mathématiquement. Après, il y a plusieurs choses. Le Sénat, il vote les lois, il a le travail législatif. Donc effectivement, il y a des lois qui nous arrivent ou même qui sont proposées. C'était un exemple de lois proposées. Hier, c'était ce qu'on appelle la niche parlementaire de notre groupe. Ça veut dire qu'on a le droit de présenter des propositions de loi qui ne viennent pas du gouvernement et qui émanent de notre groupe. On en a présenté deux. Une portée sur l'interdiction faite aux gens qui venaient de faire faillite ou qui venaient de déposer le bilan d'une société de se proposer comme candidat à la reprise de cette même société, ce qui normalement est interdit mais qui est toléré en ce moment par une ordonnance du gouvernement qui n'a jamais été ratifiée. Donc voilà, aujourd'hui, les gens de chez Camailleux, Alinéa, etc., qui ont déposé le bilan de leur boîte, eh ben ils ont pu être candidats pour la reprendre. Et en ce qui concerne Alinéa, par exemple, la famille Mullier, ben ils l'ont obtenu. Voilà, ce qui est quand même un vrai scandale. Donc on a proposé ça, qui n'est pas passé, je vous rassure. Voilà, si je puis dire. Quand je dis je vous rassure, bien sûr, c'est avec un clin d'œil. Et puis la deuxième, c'était pour l'instruction et le développement des langues régionales. Et cette loi-là qui a été proposée par les écolos, ben, elle a été votée par le Sénat hier et elle sera votée par l'Assemblée nationale. Donc on peut dire qu'on peut quand même arriver certaines fois à des résultats, en étant minoritaire.
D'accord. Avec un groupe d'écologie plurielle, on va dire, hein, qui s'appelle le GEST, c'est ça le...
GEST. On appelle GEST. Ça GEST. Voilà,
GEST. Voilà, GEST. Vous êtes les invités du Sénat, et on peut faire un jeu de mots en mettant un U.
Oui.
Écologie, solidarité et territoire.
C'est ça.
Qui est présidé donc par un sénateur qui n'est pas EELV, qui a été élu avec le soutien, je crois, des communistes dans son département, entre autres.
C'est exact, c'est Guillaume Gothard. Il avait été élu déjà, c'est pas un nouveau sénateur, hein, c'est un des quatre anciens, ou des cinq anciens même, qui sont dans notre groupe. Il y a sept nouveaux et cinq anciens qui étaient déjà là. C'est une élection dans l'Isère qui a eu lieu avec une liste plurielle, avec effectivement, entre autres, le Parti communiste et plusieurs partis de gauche. Il fait pas partie de LV, même si il est très proche de nous et qu'il est, qu'il reverse une partie, parce que nous reversons à nos partis respectifs une partie de nos indemnités à ELV. Et il a été choisi par le groupe. Donc c'est le groupe, y compris. Alors, il y a 7 ELV sur 12. Voilà. Sur les 12 membres du groupe, il y en a 7 qui sont adhérents d'Europe Écologie Les Verts.
Alors là, comme d'habitude, hein, chez Les Verts, toujours des débats assez vifs et plus publics. Il y avait une candidate, Esther Bembassa, qui était ELV, qui n'a pas été choisie. Et elle n'est pas bien contente. Hein. Elle explique que... je demande pourquoi, alors que vous étiez majoritaire, elle n'a pas été choisie. Pourquoi pas une femme? Pourquoi pas elle? Votre choix, c'était...
Alors moi, Esther est une amie, donc elle est venue me soutenir pendant la campagne des sénatoriales, en plus à Marseille, elle s'est déplacée. Donc, bien entendu, que ça aurait été aussi une très bonne présidente de groupe. Après, le choix, c'est pas absolument pas fait sur des critères liés à l'appartenance ou pas à Europe Écologie Les Verts. On aurait pu être un peu, entre guillemets, sectaire, c'est-à-dire dire on est majoritaire, on est 7 sur 12, donc on choisit forcément quelqu'un d'Europe Écologie Les Verts. Mais c'est pas la culture libertaire de notre parti, y compris la mienne. Et donc, en fait, on a choisi en fonction de critères qui n'étaient pas du tout ceux-là, qui étaient essentiellement lié à la capacité peut-être, dans certaines positions, d'avoir des discussions, y compris avec les autres groupes de droite, d'une manière plus sereine. Voilà. Et donc, majoritairement, c'est le choix de Guillaume Gothard. Je peux vous rassurer, hein. Esther, elle a été un peu déçue, et je le comprends, 48 heures, mais elle est à fond la caisse, elle est vice-présidente du groupe, elle occupe ses fonctions vraiment avec la même énergie que ce qu'elle fait toujours, et ça se passe maintenant parfaitement bien. Il y a une ambiance entre les 12, y compris avec des gens de... Par exemple, avec le représentant du FEMU Corsica, qui est effectivement Paolo Paradis, qui fait partie de notre groupe, il y a une ambiance, une atmosphère, une entraîne, une bienveillance et une capacité de travail en commun qui est énorme. Voilà.
C'est la première fois qu'un sénateur vient de écologiste, hein, vient des Bouches-du-Rhône et de la PACA. Je me trompe pas ?
C'est la première fois. Je suis le premier sénateur de la région PACA écologiste. C'est vrai.
Oublions là la cuisine interne. Effectivement, le Sénat au cœur de l'actualité politique du moment, en particulier, entre autres, hein, une commission d'enquête parlementaire, présidée d'ailleurs par un sénateur de droite, LR, Alain Millon, Vaucluse, PACA aussi, sous forme de brûlot, on peut le dire, mettant en cause l'impréparation de l'exécutif du gouvernement vis-à-vis de la gestion de la crise sanitaire du Covid. On est dans ce moment toujours extrêmement particulier, avec un état d'urgence sanitaire qui engage beaucoup de conséquences sur les libertés publiques, sur l'économie. C'est le sujet du moment. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rapport, de ce qui est dit, fiasco, selon le Sénat, sur l'affaire des masques, notamment, sciemment dissimulé par le gouvernement, mise en cause du directeur général de la santé, défaut de préparation, de stratégie, de communication?
Écoutez, les études, les missions qui sont confiées au Sénat, ou que le Sénat s'auto-confie d'ailleurs, hein, puisque c'est lui qui crée ses missions d'information ou d'études. D'abord, avant de vous répondre là-dessus, il faut savoir que le Sénat, il a une totale liberté qui est très intéressante. C'est-à-dire que non seulement il légifère, comme je vous l'ai dit, bon, mais c'est un pouvoir de contrôle. Et aujourd'hui, le pouvoir de contrôle du gouvernement, il ne peut pas être fait par l'Assemblée nationale. Il n'est pas fait, en fait, par l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est le parti du gouvernement, et que le parti du gouvernement répond au doigt et à l'œil au gouvernement. Ou alors il quitte la majorité de LREM, il se retrouve dans des groupes minoritaires, mais c'est toujours le parti du gouvernement qui est majoritaire. Donc tout le contrôle qui peut être fait de l'action du gouvernement, il n'est pas fait aujourd'hui par l'Assemblée nationale, il est fait que par le Sénat. Et donc effectivement, on est amené à pouvoir et à vouloir faire un certain nombre de missions d'études ou d'enquêtes sur des tas de sujets où on trouve, ou certains d'entre nous trouvent, que le gouvernement a failli. Et les masques, eux-mêmes, mais toute la gestion de la crise du Covid passée et actuelle nous pose vraiment problème. Elle nous pose problème pas forcément pour les décisions qui sont prises. Il peut y avoir des décisions sur lesquelles on peut être d'accord. Il peut y avoir même des décisions sur lesquelles on peut dire mais comment pourrait-on faire mieux? Est-ce qu'on a vraiment des solutions pour aller mieux? Par contre, on est capable de voir que aujourd'hui, le gouvernement, tous les avis, tous les conseils, toutes les démarches qui doivent être prises ou qui sont prises pour la crise sanitaire, il ne les met pas à la discussion commune avec les sénateurs, avec les députés. Autrement dit, en Allemagne, quand vous prenez la décision de sortir du confinement, d'y rentrer ou autre, c'est mis sur la table d'une manière transparente par Angela Merkel avec la totalité des Länder allemands, c'est-à-dire avec la totalité de ce qui représente la démocratie allemande. Et ici en France, ça ne l'est pas. On apprend des informations sur ce que va faire le gouvernement en même temps que vous les apprenez, vous, à la télé ou à la radio. On n'a pas de réponse. Olivier Véran, le ministre de la Santé, ça fait un mois et demi qu'il ne vient plus au Sénat. Il ne vient plus à aucune question qui lui est posée. Il répond lui-même. Il ne vient plus, lorsque les débats engagent son ministère, répondre aux sénateurs. Le débat est très libre au Sénat. Après, les commissions, bien entendu, elles sont toutes avec à leur tête quelqu'un des Républicains, puisqu'ils sont majoritaires, mais ils ont une majorité absolue. On n'est pas toujours d'accord avec eux. Des fois, ils détricotent des choses qui nous paraissent bien faites par le gouvernement. Et des fois, par contre, ils améliorent avec nous un certain nombre de choses. Mais il n'empêche, les commissions d'enquête, elles sont réelles. On voit beaucoup de monde. Je l'ai découvert. J'ai pu avoir des contacts avec beaucoup de gens, avoir des portes ouvertes sur beaucoup d'administrations, d'organismes d'État, d'institutions ou autres, ou même sur des sociétés privées. Et ça permet de sortir des rapports qui, en ce qui concerne celui-ci, me paraissent factuellement très exacts.
Ne pas réouvrir les cinémas, ne pas réouvrir les théâtres, alors que tout le monde se bouscule dans les grandes surfaces, qu'il y a presque une injonction à les consommer pour relancer l'économie. Est-ce que c'était pour vous une bonne décision en ce mois de décembre, au moins jusqu'en janvier?
Là, je vais vous répondre personnellement. C'est pas une position de mon groupe ou autre. Je pense effectivement qu'il y a des contradictions énormes. Les contradictions, elles relèvent du fait qu'il y a des objectifs qui sont fixés. En l'occurrence, c'était 5 000 qu'à nouveau. Qu'on n'atteint pas pour des tas de raisons. Alors on lie le fait qu'on n'atteint pas ces objectifs au fait que il faut continuer dans la voie d'un confinement aussi sévère qu'aujourd'hui. Ce n'est pas un fait. C'est juste une façon d'envisager les choses. Donc moi personnellement, je considère aujourd'hui, vu ce qui se passe aussi dans les trains, par exemple, ou dans les transports en commun, je considère qu'avec les règles qui sont suivies et que les cinémas et les théâtres pouvaient suivre, on était à même de pouvoir réouvrir les cinémas et les théâtres sans faire prendre de risque à la population.
Un autre sujet d'actualité nationale, mais qui concerne aussi pas mal de gens et beaucoup de monde sur le territoire, en PACA, dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, tous les week-ends en ce moment, des manifestations contre la loi sécurité globale. Alors l'article 24 qui est déjà feu l'article 24, mais d'autres articles, un état d'esprit un peu global sur cette loi considérée, perçue comme menaçant les libertés publiques et le droit d'informer. Et un texte qui va revenir justement au Sénat en janvier, si j'ai bien suivi.
Alors, on n'a pas encore la date précise, pour être clair. Hein. On ne sait pas, ce sera le premier trimestre, on ne sait pas exactement quand. Sûrement en janvier, sûrement mi-janvier, on va dire ça comme ça. Après, oui, on s'y est opposé formellement dès le départ. En tant que sénateur écolo, la première manifestation qui a eu lieu à ce sujet à Paris, c'était devant l'Assemblée nationale, le jour où l'Assemblée nationale étudiait cette loi pour la première lecture. Et j'y étais, donc je suis intervenu avec tout un tas de gens d'associations diverses et en tant que sénateur écolo pour expliquer à quel point je trouvais cette loi dangereuse pour un certain nombre de libertés. Donc on est opposé à beaucoup d'articles de cette loi, pas qu'à l'article 24, à beaucoup d'amendements de cette loi. Et donc on va s'y opposer formellement. On prépare avec Esther Benbassa justement en ce moment un certain nombre d'amendements et d'interventions et de prises de position et publiques et devant le Sénat à ce sujet pour montrer à quel point cette loi aujourd'hui peut être dangereuse pour ceux qui constituent les valeurs fondamentales de notre République et de notre démocratie.
D'accord. Donc votre position, c'est il faut contrer cette loi, ne pas la remettre en cause globalement, des articles.
En l'état, effectivement, il faut s'opposer formellement à cette loi et montrer par un certain nombre d'articles et d'amendements que nous sommes en train de préparer à quel point elle peut remettre en cause au-delà de l'article 24 qui était déjà en soi quelque chose de préoccupant, mais qui, comme vous dites, il n'existe plus tel quel, voilà. Au-delà de cet article-là, il faut montrer à quel point il y a un certain nombre d'autres éléments de cette loi qui peuvent être préoccupants pour nous, quoi.
Voilà. Autre loi qui fait beaucoup débattre, celle sur le séparatisme. Alors là, on a la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui dit les écologistes ont un problème avec de rapport avec la République. Votre
oui,
action
oui,
là-dessus.
Bah, écoutez, on a. Je pense qu'Anne Hidalgo prépare une campagne électorale quelconque en fait dans la réalité et que c'est une des critiques qui sont faites aux écologiques d'une manière rémanente depuis quelques mois en fait, essentiellement depuis d'ailleurs que beaucoup de gens dans la sphère politique se sont rendus compte que nous avions la confiance d'énormément d'électeurs et que nous devenions un pouvoir, une force politique à prendre en considération. Donc on cherche effectivement à nous trouver une sorte de problèmes que nous aurions avec la République ou avec la démocratie. Bien entendu, nous n'avons aucun problème avec la République ou la démocratie. Et donc, cette loi sur le séparatisme, elle nous apparaît, elle aussi, parfaitement dangereuse sur un certain nombre de ces aspects. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui, tout va bien, tout est parfait et qu'il ne faut rien améliorer ou rien changer. Mais effectivement, nous disons, cette loi, elle est très dangereuse, elle est encore plus, d'ailleurs, que celle dont on a parlé, par certains de ces articles en fait. Et alors on la connaît pas, la difficulté c'est qu'on la connaît pas aujourd'hui en fait. Dans la réalité, on attend d'avoir les textes qui vont nous arriver et on sait juste que peut-être ce sera au mois de mars, enfin vraisemblablement avant le mi-mars. Donc on va être très attentif d'abord à la façon dont elle sera présentée. Est-ce que le séparatisme, ça va être une loi qui va être perçue uniquement et faite uniquement pour lutter contre ce qu'on peut appeler l'islamophilie, l'islam, enfin appelons ça comme on veut. Bon, nous on a des positions très claires là-dessus, hein, ce qu'on appelle ou ce qu'on pourrait appeler l'islamo-fascisme est quelque chose qu'on rejette totalement. Donc, mais il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas confondre un certain nombre de dispositions à prendre pour lutter contre le terrorisme quel qu'il soit ou contre l'intégrisme qui devient du terrorisme religieux, y compris islamiste. Il ne faut pas confondre ça avec un certain nombre de lois qui vont restreindre la possibilité pour tout le monde d'avoir des positions ou de montrer des positionnements ou de manifester des positions qui vont à l'encontre des décisions qui, elles, sont des décisions gouvernementales qui n'enrichissent pas la démocratie.
Le premier adjoint de la Seine-sur-Mer en PACA, au nom de la lutte justement contre de la défense de la laïcité, de la lutte contre le séparatisme, distribue des tracts dans sa commune disant qu'il faut trier parmi les associations celles qui cachent en fait des dérives islamistes. On a dans une ville plus grande, à Nice, le maire Estrosi, qui suite à une ville meurtrie deux fois par des attentats, dit le droit le plus important, c'est le droit à la sécurité, et il doit primer sur tous les autres. Est-ce qu'il fallait légiférer face à ces événements qui ont frappé la France?
C'est ce que j'allais vous répondre. Bon, on légifère, vous savez, hein, c'est un reproche qu'on a souvent fait, y compris depuis Sarkozy, au fait de vouloir à chaque fois créer une nouvelle loi. Bon, après, il y a des lois qui existent. Aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de lutter efficacement contre un certain nombre d'attitudes ou d'actions qui sont clairement des actions terroristes qui visent à tuer des gens en fonction de critères qui sont liés essentiellement à un intégrisme religieux ou politique, politico-religieux. On l'a bien vu avec les partis politiques proches du président turc qui, en France, sont très liés pour certains, ou dans les membres, pour certains, sont très liés avec des mouvements proches aussi de l'islamisme radical, on va dire ça comme ça. Donc, il y a des lois. Il faut déjà commencer à les appliquer de la meilleure façon qui soit. Il faut donner les moyens. On le voit très souvent quand on étudie les projets de loi devant le Sénat. Et en ce moment, c'était le budget. Donc le budget, ça recoupe tout. On voit très, très rapidement où on met les moyens. Est-ce qu'on met suffisamment de moyens? Est-ce que les moyens, on les met que dans des systèmes informatiques censés fonctionner, mais qui aujourd'hui, pour certains, n'ont pas démontré la preuve de leur fonctionnement efficace? Ou est-ce qu'elle les met aussi dans la réorganisation et dans l'augmentation de la capacité humaine d'un certain nombre de services qui, eux, avaient montré par le passé, et qui le montrent encore d'ailleurs, toute leur capacité à lutter contre le terrorisme, quel qu'il soit. Donc, nous, on a... Et ça, ce sont des choix politiques. C'est-à-dire, il suffit pas de dire la sécurité, c'est la principale préoccupation. Oui, c'est une préoccupation. La sécurité en est une. C'est pas la seule, mais ça en est une. C'est notre devoir d'assurer la sécurité de tout le monde, y compris la nôtre. Mais c'est les moyens de l'assurer qui posent problème aujourd'hui. Les associations qui détourneraient leur objet, qui seraient financées par des partis ou par des puissances politiques ou par des États extérieurs, etc., on a moyen de lutter contre ça aujourd'hui. Mettant en œuvre déjà toute la lutte, améliorant ce que nous pouvons améliorer en modifiant un certain nombre d'éléments, mais faire une loi sur le séparatisme, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique de lutter d'une certaine façon contre le terrorisme. C'est pas le béaba, c'est pas la solution unique, sortant des systèmes de pensée unique pour tout résoudre.
Dernier, alors peut-être élément, avant de venir à des enjeux peut-être plus locaux, même si les choses se tiennent évidemment, la Convention citoyenne pour le climat, bon, c'est quelque chose qui a été pensé, tirage au sort de 150 citoyens, hein, pour imaginer des solutions afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de respecter les accords de Paris dont on est sur les 50 de ces accords. 146 propositions, bientôt un projet de loi.
Oui.
Vous êtes ce système là de tirage au sort, c'est un gadget là, c'est une façon qui court-circuite d'ailleurs la représentation parlementaire, l'Assemblée nationale, le Sénat.
Alors personnellement, je ne le conçois pas du tout comme ça. Moi, je suis favorable et je l'ai défendu très clairement. Dernièrement, devant le Sénat, était un projet de réorganisation totale du Conseil économique, social et environnemental, le fameux CESE, qui, je le rappelle au passage, est la troisième chambre de l'État avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, vis-à-vis de cet organisme, c'est un peu la même chose vis-à-vis de la Convention citoyenne pour le climat, en fait. Vis-à-vis du CESE, il y a deux positions. Où on dit le CESE, il sert à rien, ça fait longtemps qu'il fait pas grand chose. Le CESE et sa déclinaison régionale, c'est-à-dire les CESER, puisqu'on en a en région PACA. Finalement, à quoi ça sert tout cet argent, tout ce travail? On va l'aider à mourir. C'est un peu ce que souhaite la droite, en fait, là, en l'occurrence. Hein, quand on voit les discussions au Sénat, c'est un peu ce que... Et puis, il y a une autre façon qui est de dire, il y a un vrai outil qui a remis un certain nombre de choses, d'ailleurs, qui ont été utiles par le passé, qui ont servi, qui peuvent nous servir encore. Mais par contre, on lui donne ni la place. On ne revivifie pas sa démocratie interne, on ne lui donne pas la place de pouvoir intervenir, on ne fait pas assez de publicité sur son action et surtout, le gouvernement, d'une manière générale, le législateur derrière, ne tient pas assez compte des résultats qu'obtient le CESE. Et donc, pour faire ça, pour le revivifier, il faut effectivement faire appel à la fois au tirage au sort pour permettre à des gens de participer aux commissions du CESE et il faut en même temps aussi permettre au CESE de faire appel à des pétitions à partir d'un certain nombre de signatures, de telle façon à ce que ces pétitions puissent permettre au CESE d'avoir une action et de s'autosaisir d'un certain nombre de choses. Ça, pour moi, c'est fondamental. C'est cette participation citoyenne de cette façon-là qui vient en complément de la démocratie participative que nous connaissons et qui ne la tue pas, qui n'est pas opposée, mais qui nous permettra d'aller plus en avant. Parce que si la démocratie participative fonctionnait d'une manière parfaite, ça se saurait. Il y aurait 75% 70% ou 80% de participation aux élections, et ce n'est pas le cas. Voilà, nous, j'ai été élu, et nous écologistes avons été élus dans des élections, on en est conscient, on sait tout le poids que ça représente, mais on n'est pas sourd au fait qu'il y a pas beaucoup de participation, que la démocratie elle se manifeste ailleurs aussi et qu'il faut en tenir compte. Donc nous sommes pour tout ça et on a rencontré la Convention citoyenne pour le climat récemment. On étudie, on travaille énormément déjà sur la future loi qui n'est pas du tout connue. Hein.
Oui.
Mais on travaille énormément. On le rappelle pratiquement à chaque séance sur pratiquement tous les textes de loi, ses engagements au gouvernement sur le fait de reprendre les dispositions préconisées par la Convention citoyenne pour le climat sans filtre, comme l'a dit Emmanuel Macron. Je l'ai encore rappelé hier en séance à Barbara Pompili, la ministre de l'écologie, sur un sujet qui touchait pas directement la Convention citoyenne, mais qui avait un rapport avec. Donc il faut aujourd'hui avancer, il faut mettre en adéquation ce que nous allons faire au Sénat et les actions que nous allons mener avec les paroles, on va dire, l'écologie du dire, qui est un peu l'écologie aujourd'hui macronienne, c'est pas celle du faire, nous on veut la transformer, voilà, faire, F-A-I-R-E bien sûr.
Oui, Barbara Pompili, ancienne ministre de l'écologie, mais ancienne membre d'Europe Écologie.
Tout à fait.
Bon, son président vient d'annoncer sa solution pour les années à venir pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire relancer la filière nucléaire, hein, construction de 6 EPR, pas encore actée. À vol d'oiseau de Marseille, il y a une vieille centrale au Tricastin qui est toujours qui tourne toujours.
On se bat en permanence. C'est une lutte qui tient au corps des écologistes. Ça a été une des luttes. Le développement de l'énergie nucléaire, déjà en 74, vous en parliez tout à l'heure, ça a été un de mes premiers combats, alors qu'on n'en était pas là. Voilà. C'était très compliqué. Ça l'est toujours. On est en train d'expliquer, de montrer, de prouver qu'en dehors du fait qu'il faut revoir quelle énergie, qu'est-ce qu'on consomme comme énergie, et que donc on s'en sortira pas en considérant qu'il faut toujours consommer plus d'énergie. Donc là, c'est un autre souci. Donc voilà, ce problème-là, il faut le poser sur la réalité de qu'est-ce qu'il faut consommer comme énergie, comment on peut éviter des dépenses énergétiques, par exemple en donnant plus d'argent, comme je l'ai proposé récemment dans des amendements à la loi de finances sur les rénovations énergétiques des bâtiments, que ce soit bâtiments privés ou bâtiments publics. En dehors de cette diminution, nous montrons actuellement que, contrairement aux exemples qui sont cités avec l'Allemagne, par exemple, où on dit qu'ils ont abandonné le nucléaire, mais c'est parce qu'ils ont remis du charbon, ça a été, non seulement ça a été remis temporairement, mais la sortie du charbon est programmée en Allemagne, elle est en route, et quand on compare le nombre d'énergies, enfin la proportion des énergies renouvelables dans le mix énergétique allemand par rapport à la proportion d'énergies renouvelables dans le mix énergétique français, on est sur deux planètes différentes. Donc il y a énormément de choses à faire aujourd'hui, et sortir de ces crises, en fait de cette urgence écologique et climatique aujourd'hui, en luttant au niveau énergétique, ça consiste effectivement à un développement, à mettre tous les moyens sur un développement des énergies renouvelables, qui en plus de la partie énergétique permet aussi, en fait, d'avoir un certain nombre de résultats économiques avec beaucoup d'embauches à la clé.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Allez, donc on est déjà à la moitié de l'émission avec Guy Benaroche, sénateur Europe Écologie. Et comme d'usage, vous avez choisi un titre, une musique. Et donc, on va écouter de Neil Young, Soverman. Homme du Sud, tu ferais mieux de garder ton sang-froid. C'est Neil Young.
Juste un mot. Neil Young, c'est pas que la chanson. D'abord parce que j'aime cette musique, et voilà. Et j'aime Neil Young et Southern Man. Et ensuite parce que Neil Young, depuis des années, depuis 40 ans, il a toujours porté et représenté tout un tas de luttes, non seulement écologiques, ce qui est compliqué aux États-Unis, mais aussi pour des peuples amérindiens, mais aussi pour des peuples indiens, mais aussi contre des mesures prises par Bush, etc. Donc c'est quelqu'un qui a mêlé son activité artistique avec un vrai combat écologiste et politique.
Alors il y a six mois, il fallait garder son sang-froid aussi. C'était les municipales et avec un beau succès dans les grandes villes en France pour les écologistes à Bordeaux, à Lyon, à Strasbourg et à Marseille. Donc ça y est, enfin il y a une percée là. Vous étiez content. Alors évidemment les grandes villes, hein, c'était plus compliqué ailleurs.
Oui, hyper heureux. Cela étant dit, on a eu des plus petites villes aussi, hein, Besançon, Annecy, etc. Et puis des toutes petites villes dont on parle pas. Bon, donc globalement c'est un succès. On est hyper content. Et maintenant on dit il faut attention. Maintenant, il faut que dans ces villes, il faut que Jeanne Barzéguian, il faut que de Grégory Doucet, il faut que le maire de Bordeaux, dans d'un seul coup, non, mais c'est pas grave.
Alors, Pierre
Humic, que je connais bien pourtant. Il faut que ces gens-là, maintenant, dans leur gestion au quotidien de leur ville, ils arrivent à montrer que le fait d'avoir un maire écolo aux manettes dans leur cité introduit et induit un changement sur la vie des gens. Un changement dans le bon sens, bien entendu. Ils vont le faire, comme Éric Piolle l'avait fait à Grudenbe après avoir été critiqué pendant un an. Ils le sont critiqués. Mais Piolle avait exactement connu la même chose quand il est arrivé à Grudenbe. Et aujourd'hui, ces critiques, elles se sont tues parce qu'il y a des actions réelles au quotidien qui sont faites à Grudenbe, dans le bon sens. Et partout, ce sera pareil dans ces villes.
Ce sont des amis, comme dit Emmanuel Macron, ces maires écologistes.
Déjà, je sais pas, Emmanuel Macron, il fait beaucoup de références, en fait, aux religieux, en fait. On sait pas pourquoi. Là, il parle d'amis, après, il parle de la Bible du Coran récemment, je sais plus pourquoi. Bon, alors c'est des amis, non, Emmanuel Macron, ça me rappelle quand on nous critiquait, nous écolos, dans le passé, en disant vous voulez retourner dans les cavernes avec des bougies. C'est des gens qui nous connaissent pas qui disent ça, ils savent pas ce qu'on raconte, ils nous écoutent pas. Donc Macron nous écoute pas, en fait. Voilà, ma déduction, c'est Emmanuel Macron ne sait pas de quoi on parle.
La 5G, est-ce qu'il faut prendre un moratoire sur la 5G?
Évidemment qu'il faut prendre un moratoire sur la 5G. Évidemment, on n'en sait rien de la 5G, sinon on peut continuer ad vitam aeternam à développer des technologies ou des produits sans étudier réellement leurs répercussions et leur impact, ni environnemental, ni au niveau de la santé. On l'a fait par le passé, hein. Il y a pas de problème. On l'a fait avec l'amiante, on l'a fait avec les néonicotinoïdes. C'est une abjection qui a été remise avec une tolérance dernièrement. On l'a fait pour le glyphosate, on l'a fait pour des tas de produits. On a dit, allons-y les gars, il y a pas de problème, vous pouvez y aller. Là, on dit juste, il y a un rapport de l'ANSES qui va être remis. Au moins, attendant le rapport de l'ANSES, est-ce qu'il y a une urgence aujourd'hui à développer le 5G? Sauf à passer au tout numérique. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai lu un bouquin de science-fiction de Clifford Decima qui s'appelait Demain les chiens. Et vous savez de quoi est morte la société humaine, puisqu'elle était morte, c'était les chiens qui étaient aux rennes. Eh ben, elle est morte du manque de communication et du fait que, par ce manque de communication, les gens finalement ne se voyaient plus. Et c'est une agoraphobie générale qui a été développée. Alors, je dis pas que la 5G c'est ça, mais je dis mettons en perspective ce que peut offrir la 5G par rapport à ce qu'elle nous coûte.
Et à Marseille, Michel Rubirola est là.
Eh oui. Marseille, Michel Rubirola est là.
Alors elle est là, mais c'était pas votre premier choix.
Alors on peut pas dire ça.
Ah ben si.
Alors non.
Ah alors, si. Alors là. Alors,
je vais vous le dire différemment.
Attendez quand même. Permettez-moi de vous citer parce que c'était. Je cite nos confrères, nos amis de Mars Actu. Interview. Avant le premier tour, il y a des difficultés de positionnement au sein du printemps marseillais. Ils font la campagne d'il y a 20 ans. Quand on met un logo EELV, on gagne des électeurs. Mais lorsqu'on appose un logo PS, etc., Union de la gauche, on perd. Résultat, votre candidat, une liste autonome écologiste à Marseille, Sébastien Barle, 8% au premier tour. Michel Rubirola, 23,44%.
Voilà. Alors, je peux vous le dire un peu différemment.
Oui, allez-y.
Vous la racontez un peu différemment. Le match, on va faire le match.
Pas trop long.
Non, mais très, très rapidement. Très, très rapidement. D'abord, c'était EELV. C'est pas Michel Rubirola ou Sébastien Barle. C'est effectivement, la question, c'est celle qui est étudiée. Comment faire pour qu'on ait une majorité à Marseille? Pour nous, il était évident que pour avoir une majorité à Marseille, au premier tour, il fallait qu'il y ait une liste écologiste qui défende avant tout un programme écologiste autour de l'écologie. C'est ce que nous avons mis en avant. Et pour terminer, pour aller vite, faire un raccourci. après des tas de discussions, de négociations, de fusions qui ont été faites entre les deux tours, nous disons encore aujourd'hui que si cette liste d'union du second tour l'a emporté, c'est bien aussi parce qu'il y avait une liste écolo au premier tour séparée de celle-ci. Autrement dit, il n'y aurait qu'une liste au premier tour, reste à prouver que Michel Rubirola serait maire de Marseille, ou l'inverse d'ailleurs. Hein. Mais nous disons toujours dans notre analyse que nous n'avons pas eu tort, que nous avons eu raison.
Alors par contre, je vais quand même aller vous chercher, oui. Parce que on parle de Marseille, mais ex même scénario, c'est-à-dire la liste Dominique Sassoon ELV 9%, la liste Marc Spena Union de la gauche avec des écolos 15%, à Aubagne même scénario, Denis Grandjean ELV 8%, la liste d'Union de la gauche 24%, la marque EELV, même si elle a fait merveille dans certaines grandes villes de France, n'a pas toujours, enfin, cette union, elle est utile. Vous avez été vous-même élu au Sénat sur un ticket PS, PCF, EELV notamment, et ça vous a réussi.
Mais tout à fait. Mais si vous me demandez si l'union est possible, utile, voire indispensable, je vous réponds oui. La question, c'est de savoir comment on fait cette union. Autrement dit, est-ce que c'est une union politique de premier tour sur des programmes qui, obligatoirement, vont mettre un bémol sur certains points, aussi bien des programmes écolos que des programmes de partis de gauche, d'ailleurs. Hein, voilà. Est-ce que c'est ça qui est indispensable et qui permet de gagner? Ou est-ce que, par contre, il est indispensable, au premier tour, que nous réunissions, cristallisions, focalisions autour de nous et autour de listes écolos, du pôle écologiste qui a été bâti depuis les dernières élections, puisque aujourd'hui, c'est pas ELV seul, c'est un pôle écolo. Et c'est autour de ce pôle, d'un programme écologiste, d'un candidat écologiste clairement reconnu comme écologiste, que nous allons réussir à obtenir que tout l'électorat écologiste se réunisse autour de cette liste. Qu'après, ce soit nécessaire d'étendre, et que pour les élections, par exemple, présidentielles, ce soit nécessaire de chercher d'emblée un moyen d'étendre le périmètre de ces gens-là qui vont défendre au final un projet écologiste avec nous, bien entendu que c'est indispensable et nécessaire. Et au Sénat, bien entendu, que le système de vote faisait qu'il fallait cette union pour que chacun d'entre nous ait un élu au Sénat.
Michel Rubirola, aujourd'hui, elle a rejoint à nouveau les rangs de ELV, d'Europe Écologie.
Elle est jamais partie. Elle a été mise en retrait par le parti, voilà, qu'il a immédiatement réintroduite à la fête de sa mise en retrait, qui était avant le second tour d'ailleurs. Ça n'a pas d'incidence, mais il faut le savoir, voilà. Et donc pour nous, c'est aujourd'hui une adhérente ELV. Bien entendu.
Donc vous êtes à Paris, vous êtes fier, vous dites la maire de Marseille, ma ville, une de mes villes en tout cas.
Marseille est une ville qui a un maire écologiste. Absolument, bien entendu.
D'accord.
Et je n'ai jamais mis en cause la réalité de l'écologisme de Michel Rubirola. Au contraire, je la connais depuis longtemps. Je sais qu'elle est réellement écologiste.
Parce qu'il y a, il y a une interrogation qui se pose sur les premiers mois de ce mandat, en se disant est-ce que cette maire écologiste ne serait pas le fauné d'une gouvernance socialiste, en fait, avec un premier adjoint très présent, une maire qui hésite un petit peu, parfois on a l'impression à s'emparer totalement de la fonction. Mais votre regard là-dessus. Est-ce que
alors j'en ai deux.
Il y a simplement 5 adjoints EELV dans cette majorité. Est-ce que c'est vraiment une mairie écologiste?
Alors, c'est une mairie qui a un maire écologiste et des adjoints écologistes. C'est une mairie où une partie de l'exécutif est constituée par des écologistes, labellés écologistes, plus constituée de tout un tas de gens, y compris de la société civile, qui ont de réelles valeurs écolo aussi, qui auraient très bien pu être sur nos listes également. Et là, j'ai une double réponse à vous apporter, à votre question. Alors, ça va me revenir. En même temps que vous me la posiez, j'étais en train d'y réfléchir. Rappelez-moi juste les débuts de votre question, parce que du coup...
Est-ce qu'il s'agit d'un fauné, hein?
Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a un rapport de force partout. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun essaye de mettre en avant un certain nombre de mesures ou d'actions qui sont liées plutôt à son parcours politique ou à ses idées politiques. Donc moi, je conviens qu'il puisse y avoir au sein d'une mairie un rapport de force entre aussi et des priorités à donner, plus exactement, on va dire ça comme ça, entre les membres du PS, ceux du PC, ceux de ELV, ceux qui sont d'aucun parti, etc. C'est logique et c'est normal. Le tout, c'est d'arriver à constituer une équipe qui marche. Après, je vous dirai une deuxième chose sur Michel Rubirola et sur les autres. C'est que chez les écolos aujourd'hui, la politique n'est pas une carrière, On va le dire comme ça. La politique n'est pas une carrière. Ça ne veut pas dire que je critique les gens qui sont dans la politique depuis longtemps. Ça veut juste dire qu'on n'est pas, on n'est pas dans la politique, nous tous, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à notre dernier mandat électif. On a fait d'autres choses. On fait d'autres choses. On est toujours sur le terrain. On est participant actif de tout un tas d'associations. Et donc, la parenthèse de la prise de décision et de la prise de pouvoir exécutif par des écologistes, elle doit tenir compte de ce fait-là. On va agir, c'est ce qui fait d'ailleurs aussi qu'on est choisi par les gens, on va agir en fonction réellement de nos convictions et non pas de critères qui sont aussi liés sur la carrière dans un microcosme politique qui n'est pas le nôtre.
Alors justement, en littérature, on dit le style, c'est l'homme, mais en politique un petit peu aussi, ça peut être la femme. Et le style, Michel Rubirola, et le fait justement de son parcours un peu atypique, de sa volonté de rester très ancré dans sa profession de médecin dans les quartiers, de sa réticence à jouer le jeu finalement de l'incarnation et de l'horizontalité. Est-ce que pour vous c'est une faiblesse ou c'est une chance pour cette ville? Alors, est-ce qu'elle est la femme de la situation?
C'est compliqué de vous répondre comme ça. Après, c'est vrai, vous avez raison, c'est exactement ça. Elle reste ancrée, elle est toujours ancrée. La politique n'est pas sa vie et elle fait autre chose. C'est une certitude. Et ça ne peut être qu'un bien, parce qu'on a souvent vécu avec des politiques qui étaient en dehors des gens, et ce que Mélenchon appelle les gens, en dehors du peuple, en dehors de tout le monde, en fait. Hein. Quand je parle du peuple, c'est aussi bien les chefs d'entreprise que les gens qui vivent dans la pauvreté. Hein. Il y a eu des politiques comme ça. Voilà. C'est pas le cas de Michel Rubirola, donc ça peut être que bien. Après, à un moment donné, c'est Marseille, c'est la deuxième ville de France. Et c'est vrai qu'il y a une incarnation importante de sa fonction. Et bien entendu, elle peut pas, d'un seul coup, elle peut pas s'improviser. Ça va pas venir en 15 jours, en 3 mois. Il faut l'aider à ça. Moi, j'ai toujours dit à Michel, on est là pour t'aider. Moi, en tant que sénateur, et le parti est là pour aider à ça et pour faciliter les choses. Et donc, je le dis à Michel, je lui ai dit, mais je vous le dis là aussi au micro, et je lui dis à travers ce micro, il faut pas hésiter à s'appuyer aussi sur nous, et il faut pas hésiter à s'appuyer sur le sénateur qui peut faire beaucoup aussi pour Marseille et pour le département au Sénat.
Est-ce qu'elle s'appuie assez? Je pense au fait
qu'effectivement,
assez peu d'adjoints. Christine Just, une des adjointes EELV qui avait peut-être la délégation la plus importante à la santé, ben elle vient de l'avoir retirée parce que justement Michel Rubirola reprend le dossier en direct. Est-ce que vous avez le sentiment que l'écologie à Marseille a enfin droit de cité?
Alors, moi je suis à Marseille, je suis à Marseille depuis 1962. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui l'écologie à Marseille a un droit de cité qu'elle n'a jamais eu depuis 1962? Quel que soit le niveau de l'écologie dans ces années-là, la réponse est oui, clairement. Est-ce que je fais confiance aux élus marseillais écologistes et à Michel Rubirola pour faire en sorte que ça aille mieux, que ce soit encore plus efficace dans les prochains mois? La réponse est oui. Est-ce qu'aujourd'hui tout est parfait? Non. Et est-ce qu'on peut servir, nous, partis politiques, et moi, Guy Benaroche, sénateur, aux Marseillais pour leur permettre d'améliorer, d'appuyer ce point et d'avancer encore plus vite? La réponse est oui. Serment, bon, certainement.
Alors, voilà. Non loin de la Boyardis, votre ville, le Pays d'Aix, et là aussi c'est agité, comme souvent chez EELV, on le disait, avec un choix d'Europe Écologie, d'avoir investi au municipal, Dominique Sansoun, qui interroge toujours les militants là-bas, parce que ce candidat, c'est aussi le suppléant de la députée En Marche, Anne-Laurence Petel. Voilà, il y a une part des militants et des écologistes s'interrogent sur cette double étiquette.
Bien sûr, c'est normal qu'on s'interroge, effectivement. Il y a deux réponses. La première, il est suppléant, il ne peut pas démissionner. On ne peut pas démissionner de suppléant de député. Ça n'existe pas dans la loi. Bon. Donc, c'est compliqué. Après, est-ce qu'il a fait savoir que depuis longtemps, la réponse est oui. C'était bien avant les élections, plusieurs mois avant les élections. Il avait fait savoir publiquement qu'il se désolidarisait à la fois de LREM et de Anne-Laure Petel. Est-ce que c'est un choix qui a été le bon choix? Dans la réalité, j'en sais rien du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été le choix très largement majoritaire des Aixois. Voilà. Et donc, ce choix très largement majoritaire, aujourd'hui, on l'assume. Il a fait un résultat qui est le meilleur résultat qu'on ait jamais fait à Aix. Il y avait une autre liste écologique qui a fait 4%. C'est dommage que les deux n'aient pas été ensemble. C'est pas de notre fait. Les deux ensemble, on aurait fait un résultat qui aurait sûrement permis une fusion avec la liste de gauche au second tour et un résultat qui nous aurait permis peut-être pas de gagner la mairie, mais d'avoir plus de force.
Alors les auditeurs de Grenouille vont peut-être dire ils sont fous, on est en pleine trêve des confiseurs, en pleine crise sanitaire et sociale, et ils nous parlent d'élections municipales, et maintenant en plus je vais vous relancer sur d'autres élections qui arrivent, à savoir les élections locales, normalement qui auront lieu en juin, et locales, c'est-à-dire à la fois des régionales et des départementales, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux. Alors peut-être... Bon, on est déjà dans ce temps-là. Déjà, le calendrier, elle devait avoir lieu plus tôt, en mars, c'était repoussé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, de noyer les enjeux de démocratie locale au nom de la lutte du sanitaire? Comment parler politique? Comment poser des enjeux locaux comme ça importants? Malgré tout, c'est le territoire, c'est les départements, la région, c'est là où on est.
C'est des enjeux hyper importants. Et donc... Je travaille avec 8 autres sénateurs sur un rapport qui sera remis au gouvernement le 16 décembre concernant les possibilités effectivement d'améliorer la participation et donc d'améliorer la démocratie aussi, y compris pendant les campagnes pour ces élections qui auront lieu au mois de juin. Donc ce rapport, on le remettra sur la table du gouvernement le 16, j'y contribue, voilà. Et ça c'est un point important d'ailleurs au Sénat, c'est qu'on peut faire ce travail et qu'il est important. Elles sont très importantes pour la région et la région et les Bouches-du-Rhône, c'est très important pour moi en tant que sénateur, puisque je vous l'ai pas dit, mais mon rôle, je suis la chambre des territoires, le Sénat c'est la chambre des territoires, et j'ai dit pendant toute la campagne aux gens que je suis allé voir, aux grands électeurs, que mon rôle principal serait d'être le lien, non pas un lien comme ça informel entre l'État et le département, mais d'être celui qui portera les solutions, les demandes et les projets des maires du département au sein de cette assemblée qui est le Sénat et auprès du gouvernement. Je m'y emploie dès maintenant et je vais amplifier cette action dès le mois de janvier avec tout un tas d'initiatives avec les maires que je vais prendre et avec l'ANCT qui est la nouvelle agence nationale de cohésion du territoire qui n'est toujours pas mise en place alors qu'elle existe depuis un an dans les Bouches-du-Rhône par le préfet. Donc j'ai contacté le préfet à ce sujet en disant maintenant faut s'y mettre les amis parce que les communes attendent. Et les élections qui arrivent, eh bien, elles sont très importantes pour la région. Il n'est pas question qu'au conseil régional, on se retrouve avec aucun conseil régional de gauche ou écologiste. Il n'en est pas question. Donc, on mettra tout en œuvre pour y arriver. La stratégie, la meilleure façon d'y arriver, on n'est peut-être pas tous d'accord entre les différents partis aujourd'hui, mais on s'y emploie, on va en discuter et on va trouver la meilleure solution pour y arriver. Il n'est aussi pas question qu'on nous laisse sur le département de nouveau à Martine Vassal et aux Républicains, vu la gestion... Je vais pas mettre de la métropole qu'elle fait aujourd'hui. Voilà. Bon, donc il n'en est pas question. Le département est gagnable pour les partis de la gauche et des écologistes. Il faut trouver là aussi la meilleure façon de le gagner, avec des accords différents peut-être, mais pour gagner le maximum de circonscriptions qui nous permettront d'être élus. Je m'y emploie, les ELV s'y emploient, les autres partis politiques de gauche s'y emploient aussi, et on va arriver vraisemblablement à quelque chose.
Et alors là, pour reprendre la discussion que nous avions juste avant, vous avez changé un petit peu votre grille d'analyse, où vous êtes toujours sur une logique de il faut d'abord rassembler les écolos avant d'élargir les alliances, et donc premier tour, alors, en seconde, ou en tout cas non. Essaye d'être devant,
c'est
une liste écolo et pas une liste noyée, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, dans une, une soupe de sigles.
Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas ça la question. La question, on a toujours la même analyse. La même analyse, c'est quel est l'électorat aujourd'hui écologiste? Quel est le poids et la place de l'écologie aujourd'hui dans la société? Est-ce qu'il y a une réelle possibilité de retrouver l'écologie, quel que soit ce qui... Enfin, notre valeur d'un nouveau modèle de société écologiste, pas l'écologie en tant que cosmétique. Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui de la trouver de plus en plus à la gouvernance des exécutifs et donc au pouvoir dans des villes, des régions, des départements ou à l'État? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous disons oui à une condition. C'est que vraiment il soit clair pour tous les gens qui vont un jour pour une élection se déplacer que c'est bien ce projet écologiste auquel ils ont foi, mais pour lequel ils se déplaceraient peut-être pas pour aller voter, qui est celui qui est porté. Et que quand ils vont voter pour des gens, c'est parce que ce projet va être mis en œuvre. C'est ça qui est important.
Au sénatorial, vous étiez troisième, derrière Marie-Arlette Carlotti, PS,
Jérôme
Bacchi, PCF. Alors,
je vais terminer
Est-ce qu'il faut faire la même chose au régional, au départemental?
Je vais terminer mon raisonnement. Pour arriver à ça, selon les élections et selon le mode de scrutin, ça peut être des stratégies différentes. Clairement, quand je suis allé voir les grands électeurs au moment des sénatoriales, je leur ai dit, si vous votez pour cette liste, vous allez faire voter, vous allez permettre au troisième de la liste, c'est-à-dire à l'écologiste, d'avoir une représentation au Sénat, ce qui permettra d'avoir un groupe écologiste au Sénat. On a eu les deux. J'ai été élu grâce à ça par des électeurs écolos qui n'auraient peut-être pas voté, effectivement, si on n'était pas sur cette liste pour la même liste. Et ça nous a permis de monter un groupe. C'est les objectifs. Quel est l'objectif à la région et au département? C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire avoir de nombreux élus à la région et prendre le département. Pour cela, on fera des alliances. Je ne sais pas comment, mais on les fera.
Voilà. D'accord. Donc, vous n'excluez pas une alliance au premier tour?
Je n'exclus rien pour l'instant. Je dis simplement qu'il faudra choisir la meilleure stratégie. Si c'est la meilleure, on la prendra. Et, pour les, et pareil au moment des élections présidentielles. Alors, qui suivront et des législatives.
Sur le fond, il y a souvent à ces élections locales un taux d'abstention plus élevé, régional, départemental. Il y a un contexte sanitaire, d'inquiétude sociale qui va être assez compliqué. Est-ce que... vous pensez qu'il y a moyen de faire comprendre aux gens qu'il y a des enjeux précis, concrets pour eux, dans le moment qui est le nôtre, sur ces élections-là, qu'il faut aller voter, que ça fait sens?
Non, mais c'est le plus dur, vous avez raison, hein. C'est ça qui sera le plus compliqué. Je ne sais pas dans quelle situation on sera au moment de la campagne, c'est-à-dire vers le mois de mars-avril, on va dire, ou mai même, ou pour aller voter. C'est pour ça qu'on s'interroge aujourd'hui sur les différents moyens de permettre qu'il y ait une meilleure participation à la campagne et au vote avec cette mission dont je vous ai parlé du Sénat.
Lors du premier confinement, on a entendu très fort,
il y a eu
un avant, il faudra qu'il y ait un après, une France d'après. On a entendu la même chose, il faudra qu'il y ait une région d'après. On ne voit pas grand-chose venir là-dedans.
Ça, c'est incantatoire. Vous avez raison. Ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'on l'a dit. Moi, ça m'apparaît plutôt du domaine de l'incantation. C'est-à-dire, hier, il y avait un projet de loi au Sénat, c'était les biens communs, le monde d'après. Et en fait, c'était pour constitutionnaliser le fait que les biens communs puissent être traités, alors je vais vous passer, comme quelque chose de différent à partir de maintenant, à l'aune de cette crise à la fois écologique et maintenant sanitaire. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un vrai débat. Mais après, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il faut permettre aux forces, aux partis, aux gens qui présentent un nouveau modèle de société qui va dans ce sens-là, d'un mode différent au niveau de la consommation, de la production, de la vie sociale dans le futur, il faut permettre à ces gens-là d'être présents dans l'exécutif et de prendre les manettes de plus de pouvoir possible à tous les niveaux. C'est ça qui nous fera avancer. Alors, c'est pas l'incantation au monde d'après. Tout le monde peut la faire, à droite, à gauche, au centre, Macron, tout le monde.
Réchauffement climatique, c'est pas une affaire de... C'est une affaire mondiale, mais c'est une affaire aussi locale. On pense à la Roya, par exemple, frappée, une vallée de la région frappée par des inondations. Et puis le Var, tout le département autour d'Arles aussi. C'est très récurrent. Il y a des projections aussi sur les conséquences de quelques degrés de réchauffement sur les rives de la Méditerranée. Mais est-ce que tous ces enjeux-là peuvent être entendus alors que les gens ont peur de perdre leur emploi? C'est le moment.
Mais bien sûr.
Espère que tout va repartir, y compris la consommation, la voiture, tout ce qui vous peut être une croissance non contrôlée.
D'un seul coup, vous mettez un coup de spleen là. J'espère bien que tout le monde pense pas ça. Je suis pas certain que tout le monde pense ça. Qu'à un moment donné, effectivement, la partie de changement climatique, lutter contre l'urgence climatique, etc., était plus prenante au niveau médiatique et au niveau de l'esprit des gens, parce qu'il n'y avait pas ces soucis liés effectivement à la crise sanitaire, que c'était le cas à un moment donné, je suis d'accord avec vous, qu'aujourd'hui ce soit plus du tout dans la réflexion des gens, qui d'un seul coup ils aient oublié tout ça pour se dire la seule chose qui compte c'est de repartir dans la consommation comme avant, je ne le pense pas non plus. Donc je pense qu'au contraire, il faut rien n'est arrêté, l'urgence est toujours là. Aujourd'hui c'est absolument affolant de voir dans le plan de relance national ou dans sa déclinaison régionale, que j'attends avec impatience, on a rendez-vous avec le préfet en charge, le sous-préfet en charge de la relance, puisque c'est nouveau, il y a des sous-préfets, on a rendez-vous avec lui pour voir comment il envisage la déclinaison du plan de relance national qui vient d'être voté au niveau, et ça c'est mon boulot de sénateur, de faire en sorte qu'on arrête de dire on va changer les mobilités, on va diminuer le rôle de la voiture, et en même temps de faire voter par la métropole un certain nombre de mesures qui en fait font qu'on met encore plus de milliards sur le développement de la voiture et du système routier, de l'infrastructure routière, que sur l'infrastructure ferroviaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Et donc, faut arrêter ça. Et donc, pour arrêter ça, faut avoir des élus partout, au département, à la région, au Sénat, et on s'y emploie, et je m'y emploie, et on s'y emploiera si on a des élus. Mais faut le faire maintenant. Faut pas attendre.
Vous avez eu quelques mots sur Martine Vassal, qui est à la fois présidente du Bouches-du-Rhône et de la métropole ex-Marseille. Votre regard sur Renaud Muselier qui est en campagne, on peut le dire.
Hein. Il est toujours en campagne.
Voilà. Et qui sera probablement le candidat avec ce ticket avec Christian Estrosi. Justement, est-ce qu'il a pris un petit peu la mesure de, des attentes et de ce tournant et de...
Écoutez, faut regarder ce qui a été fait. Faut voir le plan de développement métropolitain. Faut voir les plans de développement ou les plans, les accords, les contrats qui ont été signés au niveau de la région pour le développement du train par rapport aux autres systèmes de mobilité. Faut voir en fait toutes les décisions qui ont été prises. Alors, ça ne veut pas dire que rien de ce qui a été fait n'est positif. Ça veut juste dire que la partie positive d'un certain nombre de décisions qui ont été prises est tellement une goutte d'eau par rapport à la façon dont il faut avancer aujourd'hui pour résoudre l'urgence climatique et l'urgence sociale que on ne peut pas continuer sur ce chemin-là. Si on continue sur ce chemin-là, on avance à 10 à l'heure alors que les crises sociales, sanitaires et climatiques avancent à 100 km/h en gros. C'est-à-dire qu'on prend du retard tous les jours. Voilà. Donc, et il faut étudier les mesures prises, la réalité de ce qu'il faudrait faire et c'est là où on s'aperçoit de ça. Reprenant les mesures de la Convention citoyenne pour le climat ou d'autres préconisées par des tas d'organismes, y compris d'États comme l'ADEME, et voyant ce qui est fait par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et c'est là où on voit la différence. Ouais.
Et on revient à la question de l'incarnation pour tirer comme ça une liste régionale. Un nom ?
Alors, on a du mal avec l'incarnation chez nous, vous le savez bien, hein, puisque nous, on croit aux idées, aux modèles, etc. Et que quand il s'agit d'incarner, c'est compliqué. On le voit aux élections présidentielles, l'ombre providentielle chez nous. On a du mal avec ça, voilà. Est-ce qu'on a une incarnation ? Non, mais pour l'instant, Europe Écologie Les Verts a désigné un chef de file ELV qui sera donc chef de file ou tête de liste, on n'en sait rien puisque ça dépendra de la configuration finale, qui s'appelle Olivier Dubuquois. Voilà, donc pour lui, pour le moment, c'est lui le chef de file ELV pour les élections régionales.
D'accord. Pour le coup, inconnu du grand public.
Hein. Très peu connu, mais est-ce que Pierre Humic, Jeanne Barzagian, Grégory Doucet étaient, ou Éric Piolle quand il a été élu, étaient les plus connus dans leur ville? Non. C'est pas eux qui ont fait l'élection.
Voilà. Alors bon, l'émission va bientôt arriver à son terme et on assume. Allez, on a parlé de toutes les élections. Parlons de la présidentielle, pourquoi pas.
C'est on pas si parler que de ça.
Vous en parlez vous-même puisque déjà vous parlez d'une primaire en septembre. Donc juste après cette séquence, une primaire interne aux écologistes. Pour mieux vous connaître, vous êtes plutôt Jadot, Rousseau,
Piolle.
Il effectivement.
Oui. Ben déjà on a notre programme. Notre agenda, on va dire ça comme ça, c'est pas ELV, c'est le pôle écolo. Voilà, le pôle écolo, c'est un grand nombre des partis écolo, voire tous les partis écologistes vraiment de l'écologie politique depuis des années en France qui sont réunis, plus génération.
Là, vous voyez le poisson, là, vous
répondez. Non, je veux répondre. Plus génération depuis peu. Et donc, est-ce que j'ai un candidat aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je connais mieux, vis-à-vis duquel j'ai été plus proche par le passé et pour lequel j'ai déjà milité par le passé, qui me semble être un bon candidat? Aujourd'hui, c'est plutôt Yannick Jadot, voilà.
D'accord, donc c'est pas Mélenchon qui pourtant est déjà candidat et prend de la planification écologique.
Ce sera pas Mélenchon, ça ne l'a pas été aux dernières élections non plus. Nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de choses, y compris sur son idée de la planification. Donc on a des points communs avec LFI et avec Jean-Luc Mélenchon, on a des points de divergence. Donc la discussion restera ouverte, je pense, mais ce sera pas Jean-Luc Mélenchon qui sera notre candidat.
Guy Ménage, merci. On a parlé beaucoup de politique et n'oubliez pas de vous abonner à la presse Pas Pareil. Je m'adresse aux auditeurs de Radio Grenouille. C'est le moment de faire des cadeaux et voilà un cadeau tout à fait éco-responsable. N'hésitez pas, allez sur leravie.org. À bientôt, au mois prochain. Bye bye.
Merci, au revoir.
La grande tchatche.